Interview.
2 jours.
Bonjour, ici Erdiwa pour l'interview émission que vous écoutez sur les ondes FM en 107.5 ou sur le 101.7 à Lucandiwa. L'émission est aussi mise en podcast sur le site internet www.rdwa.fr. Aujourd'hui au studio, nous sommes en compagnie de nouveau avec Connie Baker, bonjour.
Bonjour.
Ensuite, accompagné d'Ella Ziegler, bonjour.
Bonjour.
Et de Vera Léon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes toutes les trois pour nous présenter la prochaine proposition de D-Residence intitulée Invisible Walls, titre du projet de Vera et Léon. Voilà, et donc ça sera le vernissage qui aura lieu le 27 septembre à partir de 18h, toujours à D-Residence, au quartier Chéneau, après Chapia, hein, c'est ça?
Oui, en fait, il faut prendre la route de la déchetterie. Et après, on a des affiches partout, on ne peut pas se tromper. Mais c'était peut-être juste pour préciser, le titre, c'est le titre du projet de Vera, qui était cet été à Berlin, au Lichtenberg Studios, mon partenaire, pour faire une résidence là-bas. Et du coup, elle a déjà son projet, voilà, elle a fini son projet. Elle n'a pas encore le titre précis pour son projet parce qu'elle a encore un peu de temps pour le trouver parce que c'est que le 27, le vernissage.
Ella Ziegler et Vera Léon, toutes les deux invitées pour cette nouvelle résidence. Vera, je crois que vous êtes allée à Berlin dernièrement. C'est un peu cet échange qui a lieu entre ces deux organismes que sont D-Residence et l'autre, c'est le musée Lichtenberg.
En fait, c'est les Lichtenberg Studios, mais c'est dans le même bâtiment que le musée de Lichtenberg, oui.
Comment se nourrir toutes les deux, chacune, de ce que vous captez? Quelle est votre perception de ce qui vous entoure et comment le retranscrivez-vous?
Alors, je pense qu'effectivement, de changer de lieu, comme c'est le cas dans les résidences artistiques, c'est vraiment une opportunité assez incroyable pour aussi modifier son regard et prendre conscience de son propre regard, en fait, des conditions de son regard. Et par exemple, de passer d'une zone rurale, comme le Diwa, à Berlin, qui est une zone très urbaine, à Lichtenberg en particulier, qui est une zone de banlieue, en fait, dans l'est de Berlin, dans la partie de Berlin-Est, qui était en RDA. Et ça permet de nourrir son regard et de aussi de se confronter parfois à des différences aussi de vie quotidienne, et en particulier dans mon travail qui porte beaucoup sur le rapport du corps à l'espace. Cette confrontation à l'espace urbain, elle était particulièrement importante pour le sujet du portrait photographique qui est celui que j'ai poursuivi pendant ce projet. Ouais.
Un univers certainement enrichissant, parce que vous êtes aussi, vous vivez aussi en Île-de-France, hein, entre l'Île-de-France et la Drôme, donc il y a un peu cette approche de l'urbain. Est-ce que vous avez capté des différences justement entre ces deux pôles que sont Paris et Berlin?
Alors oui, j'ai grandi en région parisienne et effectivement dans l'est aussi de la banlieue parisienne communiste. Donc il y a des liens que j'ai faits pendant le projet et qui se retrouvent dans le journal poétique que je propose dans le cadre de l'exposition. Parce que effectivement, il y a dans ces banlieues-là, il y a un rapport entre le centre et la périphérie qui est très fort. Il y a aussi un rapport aux communautés déjà marginalisées dans ces banlieues-là, mais en même temps, moi j'ai travaillé pas mal sur les personnes queer dans cet espace-là et du coup c'est vrai que ce sont des espaces où les espaces communautaires qu'on connaît dans le centre des villes, comme à Paris ou à Berlin, sont très différents en fait, quand on s'intéresse aux banlieues, même des banlieues proches parfois. Donc c'était effectivement un sujet d'intérêt important.
Ella Ziegler, pareil, hein, je vous pose la même question. Je ne sais pas si elle a été comprise. Qu'est-ce qui vous captive justement en venant dans le Diwa? Quel est le contraste que vous voulez révéler?
Ja, ich wohne ja in Berlin und schon seit über 20 Jahren. Und,
du coup, elle dit que c'est bien l'opposé de ce qu'elle ce qu'elle a vécu. Vera, à Berlin, ici, a dit qu'elle est dans un atelier qui est à côté d'une forêt. C'est assez isolé. Du coup, elle a décidé de prendre la nature, l'environnement, comme objet de sa recherche et de son travail artistique. Elle se demande comment elle peut se mettre en relation avec la nature ou avec cet environnement qui est nouveau pour elle. Elle est une artiste qui habite à Berlin depuis plus que 20 ans, alors assez urbaine.
Justement, il y a une certaine similarité dans votre travail. Il y a prise de notes, un travail photographique, la réutilisation aussi de vieux documents ou de photographies. Vous travaillez avec des musiciens pour ces travaux. Il y a une multitude de propositions que vous faites, qu'on peut découvrir sur votre site. Vous pratiquez d'ailleurs depuis une vingtaine d'années. Et cette évolution au départ est partie de quoi ?
Elle est toujours intéressée de regarder les personnes avec leur mouvement, avec leur corps un peu. En fait, il y a une similarité avec Vera qu'on note bien. Et en fait, pareil pour la nature, qu'elle dit qu'elle a ses propres gestes, la nature. Et du coup, elle prend ça comme... ça, c'est l'objet trouvé, si on veut. Et après, elle regarde, elle crée des narratifs de ça. Et ici, dans Diwa, Wadi, c'est la grande falaise, en fait. C'est le Vercors. Et ça, c'est très impressionnant. Et cette grosse... cette fête d'être impressionnée, en fait, elle essaye de se mettre en relation avec et de voir ce qu'elle peut faire avec parce que elle veut pas rester dans cette étoile là et elle voudrait plutôt rentrer en relation avec cet objet comme la falaise et aussi cette émotion d'être submergée de cet objet qui est une montagne.
Was mich an dieser Wand am meisten interessiert, ist eigentlich zum einen
die Fähigkeit, dass sie die Fähigkeit hat. Ce qu'elle trouve très intéressant ici, c'est que, ou le plus intéressant, c'est que cette falaise, cette mur, comme elle dit, reflète la lumière comme un écran de projection. Et du coup, cette mur grise, elle devient un peu acteur, si on veut. C'est comme un écran du cinéma qui donne la lumière à Di, si on veut, et qui...
Ouais.
Et qui raconte des histoires.
Je reviendrai un peu avec Ella sur le Vercors. Vera, pareil, hein, vous êtes gourmande aussi de formation, puisque vous avez une médaille d'or pour du violoncelle. Et puis, vous avez aussi un master en photographie. Et là, un doctorat en histoire de la photographie. Qu'est-ce qui vous intéresse sur cet aspect de la photographie ? Sa connaissance, pour vous, est primordiale ?
Oui, je pense qu'en tout cas, la culture visuelle dans laquelle on baigne au quotidien, elle nous détermine beaucoup dans nos normes sociales, dans nos imaginaires. Et c'est vrai que c'est... Bon, j'aborde ces questions-là sous plusieurs angles, à la fois théoriques et artistiques. Et du coup, les questions de genre en particulier m'ont intéressée dans mes travaux théoriques. Mais c'est vrai que j'ai une approche très multidisciplinaire où je croise en fait des approches plus historiques, où je peux faire appel même là dans l'exposition, par exemple, à des archives visuelles anciennes, mais aussi aux textes poétiques, à l'écriture. Peut-être aussi à la performance, à une performance qu'on joue avec les personnes avec qui je travaille dans le cadre de ces portraits photographiques. Et évidemment la photographie. Mais la photographie, ce n'est jamais qu'un prétexte, en fait. C'est une manière de raconter le corps, c'est une manière de créer aussi un prétexte de mise en scène dans l'espace public. L'idée, c'est de travailler vraiment avec des personnes avec qui on se met en scène et avec qui on travaille le corps, on travaille la chorégraphie, on travaille l'incarnation d'un certain nombre de contraintes physiques et corporelles qu'on peut ressentir dans l'espace public, dans la ville, mais aussi de libération corporelle qu'on peut exprimer par exemple l'autodéfense, par la danse, par un certain nombre de pratiques corporelles qui peuvent nous sortir de... Donc c'est drôle parce qu'il y a beaucoup de liens, je pense, avec Ella dans ce rapport au corps, dans ce rapport à l'espace, dans ce rapport au langage aussi, et comment est-ce qu'on peut raconter une autre histoire, en fait, à partir de notre rapport au monde, parce que c'est une responsabilité, en tant qu'artiste aussi, de produire un regard. Qu'est-ce qu'on produit comme regard sur les gens, sur le monde? C'est vraiment une interrogation qui me poursuit. Ouais.
Il y a aussi Vera et Léon, un duo imaginaire. Ça a permis de lancer une réflexion sur quel domaine?
Alors, l'idée de ce duo, c'est donc Vera et son ami imaginaire Léon, qui peut prendre plein de formes. Alors, c'est à la fois d'apporter un petit jeu de mots un peu facétieux sur la question de l'identité de genre, puisque voilà, l'idée, c'est d'allier différentes identités, différentes expressions de genre, donc l'identité Vera, l'identité Léon, mais c'est aussi parler justement de ce rôle de la collaboration, en fait, dans mon travail artistique. Je pense que on a souvent tendance à imaginer que les artistes sont des figures isolées, très singulières, très géniales, comme ça, qui produisent une vision sur le monde. Et je crois que cette manière de parler de la collaboration par cette esperluette entre Vera et Léon, entre deux amis imaginaires, c'est aussi parler de la façon dont notre regard se construit vraiment en interaction permanente avec les autres. Donc c'est à la fois une interaction qu'on a avec d'autres artistes, bien sûr, comme ici avec Ella ou avec Connie dans ce travail de commissariat d'exposition, mais c'est aussi un travail avec des chercheurs, chercheuses, avec des personnes avec qui on peut faire des portraits, avec tout un tas de gens autour de nous, en fait, de constellations de personnes qui participent à créer une discussion et à créer du coup un regard.
Je reviens sur le titre Invisible Worlds. Qu'est-ce que vous voulez signifier par cette proposition?
Alors, en fait, le titre, c'est Invisible Walls, donc c'est les murs invisibles.
Ah, et c'est Walls.
Ouais.
D'accord.
Et en fait, c'est l'idée de ces murs invisibles, c'est justement de parler de cette difficulté parfois de représenter. D'abord, la première difficulté, c'est celle de rencontrer autrui, de rencontrer l'autre, de comprendre l'autre dans une société qui est quand même très très hiérarchisée, qui nous colle des étiquettes sans cesse et dans laquelle on doit se définir sans cesse en fonction de nos identités. Or, on est des êtres complexes et pluriels, donc l'idée de ces murs invisibles, c'est déjà de parler de cette difficulté à avoir accès tout simplement à l'autre dans son authenticité, dans sa profondeur. Et puis, c'est aussi parler de l'image, parce que l'image photographique, de fait, elle crée une surface, elle crée un écran de projection, un peu comme le Vercors, comme ça. Mais finalement, cet écran, à quoi il nous donne accès? Alors, le pari de ce travail de portrait, c'est justement que la fragmentation d'un portrait par plein de parties du corps et plein de manières de chorégraphier le corps va justement permettre de sortir de cette pure surface bidimensionnelle et justement d'imaginer la tridimension et d'imaginer justement le corps dans l'espace et le corps dans la société, etc. Mais en tout cas, voilà, l'idée, c'est vraiment de parler de cette grande difficulté, mais aussi de cette grande beauté, de grand mystère de la vie que c'est de rencontrer autrui en tant qu'artiste, mais aussi en tant que personne.
Oui, vous levez un point sur la représentation que l'on peut retrouver sur une photographie. On est habitué à une photo composée, travaillée, réfléchie. Là, on tombe plus dans, que ce soit l'une et l'autre, dans un aspect anecdotique de l'image, de détail. Pourquoi ce parti pris? Qu'est-ce que vous voulez dégager de cette proposition?
Ich bin im Rahmen meiner Recherche also auf ein englisches Wort oder eine Wortkombination gestoßen, die für eine Felswand steht.
Dans le cadre de sa recherche, elle a trouvé un mot ou une combinaison de des mots en anglais pour décrire les rochers, des falaises en fait, plutôt des falaises. Et c'est rock face. Alors, rock, c'est la pierre. Et face, le visage. Et du coup, ça l'a interpellé, cette combinaison des mots, rock face. Alors, la falaise comme un visage. Sur laquelle elle projette ses propres imaginations de la nature ou de l'environnement. Et du coup, comme elle a dit avant, après, c'est des histoires qui viennent de là, de
cette lumière, de cette lumière aussi. Justement, je voulais revenir sur le Vercors avec Ella. Est-ce que vous vous êtes approché au plus près du Vercors? Êtes-vous allé dessus même pour vous imprégner de ce monde?
Ja, ich habe vor, eine Wanderung zu machen, um auch dieses Wesen.
Oui, en fait, elle a prévu dans quelques jours faire une balade de au moins 2 jours pour vraiment se rapprocher du Vercors et pour faire une rencontre de cet être qui l'intéresse et de faire de créer une vraie relation avec cet endroit et pour mieux la comprendre.
Je reviens donc à Vera pour la même question. Je parlais des compositions photographiques classiques qui sont composées, réfléchies, travaillées. Vous, je parlais justement de cette captation des détails. Qu'est-ce que vous voulez proposer justement? Quelle est la signification?
Alors oui, je suis à la fois d'accord et pas d'accord. Je pense que dans la culture visuelle dans laquelle on baigne, notamment... toutes les représentations de personnages qu'on a aujourd'hui, ce sont beaucoup des représentations de soi, hein, ce sont beaucoup des autoportraits qu'on voit sur les réseaux sociaux, toute la culture du selfie, enfin la façon dont on se met en scène, avec un certain nombre de codes visuels qui sont extrêmement normés, qui peuvent être aussi très émancipateurs. Il y a vraiment une dimension aussi très, très forte dans le fait de prendre le contrôle, le pouvoir sur notre propre image. Ce que je propose en tout cas aux personnes avec qui je travaille dans le cadre des portraits, c'est une démarche un petit peu différente, un petit peu décalée. À la fois, il y a tout à fait une part de ces personnes-là dans l'élaboration en fait, du lieu dans lequel on va prendre la photographie, mais aussi des gestes qui sont mis en scène et même des angles de vue parfois. Et en même temps, je vais leur proposer moi aussi certains fils conducteurs, certaines narrations. En amont, je leur demande d'apporter... un ou deux objets avec lesquels ces personnes se sentent, qui incarnent pour elles particulièrement la force en fait, et qui leur donnent de la force, notamment dans des espaces où l'hostilité peut être forte en milieu urbain. Et puis je leur demande aussi de mobiliser une expérience du passé, qu'elle soit justement une expérience de grande vulnérabilité ou une expérience de force dans l'espace urbain ou public. Et c'est très intéressant parce qu'à partir de ça, en fait, ça nous donne un fil rouge pour travailler ensemble comment est-ce que le corps peut incarner toutes ces questions-là. Donc effectivement, ça passe aussi par la fragmentation, par le détail. Mais je ne crois pas que ce détail soit anecdotique. Je pense qu'il est, très signifiant. Il raconte aussi la métaphore de notre rapport à l'espace qui est rarement représenté dans toutes ces dimensions-là.
Je parlais de son aspect. Hein. Au premier coup d'œil.
Oui, bien sûr.
Voilà.
Non, bien sûr.
Et ensuite, vous parlez aussi d'usine à paillettes. Ça, c'est dans le contexte de ce travail que vous travaillez, enfin, de ce travail que vous préparez pour justement cette exposition.
Non, l'usine à paillettes, c'est un peu un jeu de mots, mais l'usine à paillettes, c'est parce que, de même que mon double nom, c'est comme tu l'as dit tout à l'heure, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est j'ai une pratique très très multidisciplinaire, donc je peux passer par la photographie, mais aussi l'installation sonore, par des écrits théoriques ou par une écriture beaucoup plus créative. Donc c'est vrai que l'usine à paillettes, c'est un peu un jeu de mots pour parler de cette fabrique très très variée en fait. C'est vrai que je peux changer beaucoup de médium pour nourrir mon imaginaire, ça fait partie des, je trouve, des choses chouettes dans la vie aussi de pouvoir changer. Mais je crois que c'est un point commun aussi avec Ella qui a une approche très multidisciplinaire et qui justement joue avec tous les formats, avec la deux dimensions, la trois dimensions, qui joue avec les mots, qui joue avec le tissu. Enfin, tout en fait peut être prétexte à représentation dans notre monde.
Juste. Je voulais savoir, avant de vous retrouver dans une école d'art ou de musique, quelle était votre pratique artistique et est-ce qu'elle a été chamboulée justement par ce passage dans cette formation universitaire ou scolaire de l'art?
Moi, ich habe in Glasgow, an der Glasgow School of Art studiert.
Alors, elle a étudié à Glasgow, dans le département de l'art, de l'environnement et environmental art. Et là, le sujet, c'était de surtout regarder tous les contextes. Et du coup, ça peut être une ville, une histoire ou le forme d'un paysage. Et le plus important, c'était de créer des liens et entre des différents contextes et de les utiliser pour construire des, ou en fait pour créer des propres perspectives dans une œuvre d'art.
Vielleicht ganz eine Sache. Das für mich ist das Interessante, dass dass wir als Menschen mit unserer Wahrnehmung.
Alors Ella, elle constate que nous, comme êtres humains, on est très limité avec notre mode de perception. Et du coup, elle utilise tous les moyens, comme la poésie, la lyrique, des actions, la musique, pour justement amplifier les possibilités de percevoir le monde, de soi-disant réel, et de justement de l'augmenter. Et je vois là en fait un peu une parallèle avec le projet de Vera qu'elle a eu à Berlin avec tous les murs invisibles qui nous empêchent de faire ou être ce qu'on voudrait faire ou être.
Et donc Vera, ce passage dans une école d'art, quelle influence sur votre travail?
Moi j'ai commencé la photographie quand j'étais assez petite, 13-14 ans, et j'ai beaucoup fait d'argentique et j'avais une pratique très spontanée entre guillemets, enfin en tout cas très quotidienne. Et c'est sûr que le passage par une école d'art, c'est le passage par une école en sciences sociales, enfin par une formation en sciences sociales qui a beaucoup aiguisé mon regard, parce que du coup j'ai appris à analyser les images et à comprendre à quel point cette culture visuelle déterminait aussi nos perceptions sociales. Et puis ensuite, effectivement, le passage par... Alors pour mon cas, c'était pas une école d'art, c'était un master en photographie art contemporain qui est un peu le seul master universitaire en France à Paris 8, à Saint-Denis. Et c'est vrai que je pense que l'articulation entre une approche théorique et une approche pratique de l'image est vraiment quelque chose qui a été une grande force pour moi. On pourrait dire que ça déforme parfois le regard aussi, le concept, tout ça, mais je pense que c'est une nourriture aussi pour comprendre un peu comme ce qui est exprimé là par rapport à toute la question du contexte, la question de... On est en situation, en fait, quand on est artiste, on ne vole pas au-dessus des autres, on est aussi dans le monde dans lequel on est. On se lève le matin comme tout le monde, donc on est aussi en prise avec les questions politiques comme tout le monde et les questions sociales, et donc du coup, c'est vrai que cette articulation-là, pour moi, ça a été très porteur aussi de rencontrer cette formation universitaire pour ça.
Cela fait une vingtaine d'années là que vous travaillez, que vous exercez. Donc, Vous avez des rendez-vous à travers le monde hein, pour des expositions. Hormis l'année 2020 qui a été un peu néfaste, ça se développe. Et vous avez un rayonnement qui commence à se statuer.
Die vergangenen zwei, drei Jahre haben uns gezeigt, dass wir uns in einer Krise, in mehreren Krisen befinden. Und dadurch hat sich natürlich auch meine Perspektive zur Kunst verändert.
Alors, elle a dit que les deux, trois dernières ans, on a compris qu'il y a plus, on habite ou on vit avec plusieurs crises. Et du coup, aussi, pour elle, ça a changé la perspective sur l'art et son propre approche et son propre art. Et notamment la crise écologique, c'est sûr que c'est bien étudié par des scientifiques. Mais le problème, c'est qu'il faut qu'on change notre mode de vie. Mais on ne le fait pas, ou pas assez, et pas assez de gens. Et du coup, elle travaille avec un scientifique du sol, de la terre, en fait. C'est ça. Lui, en fait, il pense que c'est nécessaire de travailler avec des artistes parce que, pour lui, c'est évident que la science naturelle, il ne peut pas transmettre le message pas assez bien. Et du coup, il pense que les êtres humains ont besoin des narratifs. Du coup, dans ce cas, les scientifiques, ils ont besoin des narratifs pour mieux faire comprendre le problème et pour finalement changer notre mode de vie.
Vera, pareil, est-ce que ça, c'est un sujet qui vous préoccupe, l'écologie dans votre travail ?
Je pense que c'est un sujet et en même temps un contexte dans lequel on a du mal à ne pas s'inscrire, effectivement. Et c'est d'ailleurs assez étonnant la façon dont les portraits... les personnes avec qui j'ai fait ces portraits m'ont toujours emmené quand je leur ai demandé de me montrer un endroit dans Lichtenberg, à côté de Berlin, où ils se sentiraient bien, où ils se sentiraient en force, où ils pourraient retrouver une sorte de puissance, en fait, d'être. Et quasiment toutes m'ont emmené au bord de l'eau, sous les arbres, dans les bois, parfois au ras du sol, comme dans les travaux de Ella. Et c'est vrai que je pense qu'il y a quelque chose de très fort et qui est à la fois plein de spiritualité dans ce rapport-là aux éléments naturels, mais qui est aussi plein de politique, en fait, et de société, de rapport à notre environnement, en fait. Comment est-ce qu'on inclut aussi ces différents espaces ? Et c'est vrai qu'en tant qu'artiste qui venait de Die, dans un espace comme Berlin, qui certes est une ville qui est très connue pour ses espaces verts, parce qu'il y a des immenses forêts et lacs à l'intérieur même de la ville, mais en même temps qui est aussi une ville qui est en plein développement, en pleine explosion capitaliste, et qui du coup aussi pose la question de notre rapport à cet espace-là. Donc je crois que c'est inévitable, oui, de se poser cette question dans les projets.
Et là, vous vivez, vous connaissez Berlin depuis longtemps, j'imagine. Est-ce que vous avez vu cette ville se transformer depuis les années 80, quand le capitalisme a commencé à reprendre possession de cette ville?
Als ich nach Berlin gezogen bin, konnte ich mit einer Freundin eine Wohnung.
Alors, elle a bien vu comment ça a changé à Berlin. En fait, quand elle est venue à Berlin il y a 20 ans à peu près, elle a eu un appartement de plus que 100 mètres carrés avec une copine. Et en plus, un espace pour faire des projets, des expos. Et là, en ce moment, maintenant, c'est plus possible. Il y a des investisseurs internationaux partout, qu'ils ont acheté la ville. Et du coup, il y a un manque de l'espace, des appartements pour les gens normaux. Et les étudiants, ils sont presque plus, ils trouvent presque plus des chambres dans les colocs parce que ils doivent payer 400-500 euros pour une chambre et ce qu'elle connaissait pour peut-être même pas 200 euros dans le temps. Et ça devient compliqué.
Connie, je me tourne vers toi pour terminer ce choix de Ella et de Vera pour cette exposition. Pourquoi ? Qu'est-ce qui t'a interpellé dans leur travail ?
Alors, c'est pour le programme d'automne. C'est toujours plus ou moins un choix partagé avec Uwe Jonas, qui gère les Lichtenberg Studios, qui sont à Berlin, Lichtenberg. Et pour Vera, c'était assez spontané, parce qu'il y avait une autre artiste qui ne pouvait pas, finalement. J'ai déjà fait connaissance de Vera à travers de la musique et sa collaboration avec
Gustavo.
C'est ça. Et Gustavo, du coup, on a fait connaissance, mais on a pas fait la visite d'atelier avant qu'il y avait vraiment cette question d'aller à Lichtenberg. Et du coup, c'était je connaissais le site web et c'était intéressant. Et là, on travaille bien ensemble. Et du coup, c'était une belle trouvaille, si on veut. Et Ella, c'est une artiste que je connais à travers Uwe, mais déjà, on a collaboré pour un festival à Berlin qui était en 2019. Et du coup, on a vraiment fait connaissance aussi pour la résidence. Et grâce à Uwe.
Je rappelle aussi ce vernissage, le 27 septembre, c'est un quel jour ça, le 27 ?
C'est un mardi.
C'est un mardi, ouais. À 18h. Et l'exposition durera quelque temps ?
En fait, on va faire un finissage le dimanche d'après. Du coup, c'est le 2 octobre. Comme ça, il y a une deuxième possibilité. Sauf que je recommande vraiment de venir le mardi parce qu'elle est encore là. Et pour le finissage, elle ne serait plus là. Et c'est pour ça que sur les affiches, vous voyez plutôt la date du vernissage parce que c'est plus important pour nous d'avoir la possibilité d'échanger avec les deux artistes.
Bien sûr, on peut aussi retrouver votre travail de chacune. Hein. En tapant Ella Ziegler, on peut retrouver un site qui résume quand même toute votre activité. Et pareil pour Vera. Et donc, je vous remercie en tout cas Ella Ziegler, Vera Léon et Connie Becker d'être venues toutes trois pour nous présenter cette exposition résidence à Die Residenz. Donc, et bonne soirée.
Bonne soirée.
Merci.
Merci.
Au revoir. Thank you.
Musik.